Arthur Conan Doyle, John Barrington Cowles. Il y a peut-être quelque témérité de ma part à déclarer que j'attribue la mort de mon pauvre ami John Barrington Cowles à une cause surnaturelle. Je sais bien que, étant donné l'état actuel du sentiment public, il faudrait une série de preuves bien fortes en vérité pour faire accepter la possibilité d'une telle conclusion. Je me bornerai donc à rapporter, aussi brièvement et aussi simplement que je le pourrai, les circonstances qui ont amené ce triste événement, en laissant au lecteur le soin de tirer lui-même ses déductions. Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un pour faire la lumière sur ce qui est pour moi inexplicable. C'est à l'université d'Édimbourg, où je terminais mes études de médecine, que je fis la connaissance de John Barrington Cowles. Nous occupions chacun une chambre sur le même palier d'une maison de Northumberland Street, et lorsque nous nous connûmes mieux, nous prîmes en commun un petit salon où nous faisions servir nos repas. De cette façon se forma entre nous une amitié que ne troubla jamais le moindre dissentiment jusqu'au jour de sa mort. Le père de Cowles, qui était colonel d'un régiment stationné aux Indes, il servait à son fils une fort jolie pension, ne lui donnait guère d'autres signes de son affection paternelle, écrivant rarement et toujours très brièvement. Mon ami, qui était né lui-même aux Indes, tenait de son pays d'origine une nature affectueuse, ardente, et ressentait vivement cette indifférence de son père à son égard. Sa mère était morte, et il n'avait aucun parent qui pût combler le vide de son cœur. Aussi, avec le temps, il se prit pour moi d'une affection qu'il est rare de rencontrer entre hommes, et même lorsqu'un sentiment plus tendre et plus profond s'empara de lui, l'amitié qui nous unissait n'en fut nullement atteinte. Cowles était un beau garçon, bien pris, élancé, avec un teint olive à la Velasquez et de grands yeux noirs très doux. J'ai rarement rencontré un homme mieux fait pour exciter l'imagination d'une femme. Son expression, habituellement rêveuse et même langoureuse, s'animait tout d'un coup lorsque, dans le cours de la conversation, se présentait un sujet qui excitait son intérêt. Alors son visage se colorait, ses yeux brillaient, et il parlait avec une éloquence qui lui gagnait sur-le-champ tous ceux qui l'entendaient. En dépit de ses avantages naturels, il menait une vie retirée, se tenant à l'écart de la société des femmes et consacrant tout son temps à l'étude. Il était considéré comme un des meilleurs étudiants de l'université et il avait remporté de nombreux succès aux divers concours de l'école de médecine. Avec quelle netteté je me rappelle la première fois où nous la rencontrâmes. Maintes et maintes fois, j'ai repassé dans mon souvenir toutes les circonstances de cette rencontre en essayant de retrouver l'impression exacte qu'elle produisit sur moi à ce moment où mon esprit était dégagé des influences qu'il subit forcément par la suite. Toutefois, ce n'est pas sans difficulté que je parviens à éliminer les sentiments que la raison ou les préventions firent naître en moi avec le temps. C'était à l'ouverture de l'exposition de l'Académie royale de peinture en 1879. Mon pauvre ami était un enthousiaste de l'art sous toutes ses formes. Une note harmonieuse en musique, un ton délicat dans un tableau, procuraient un plaisir exquis à sa nature sensitive. Nous étions allés voir l'exposition et nous nous tenions dans le grand salon central. Quand je remarquai à une extrémité de la salle une jeune femme admirablement belle, je n'ai jamais de ma vie vu un ensemble aussi parfait de beauté classique. C'était le type grec dans toute sa pureté, le front était large, très bas, aussi blanc que le marbre, encadré d'un nuage de cheveux bouclés qui lui faisait comme une auréole. Le nez droit et bien dessiné, les lèvres un peu épaisses, le menton gracieusement arrondi, et cependant suffisamment développé pour indiquer une force de caractère peu commune. C'était surtout ses yeux, oh, ses yeux extraordinaires, ah, oh, si je pouvais seulement donner une faible idée de ce regard changeant, passant de la dureté de l'acier à une douceur exquise, de sa puissance de commandement, de son intensité pénétrante, se fondant tout à coup en une expression de faiblesse féminine. Mais j'empiète sur des impressions futures. Elle était accompagnée d'un jeune homme de haute taille, très blond, et que je reconnus aussitôt pour un étudiant en droit avec lequel je m'étais rencontré plusieurs fois, Archibald Reeves. C'était son nom. Il était un grand beau garçon, étudiant amateur, qui donnait le ton de la mode et que l'on était sûr de trouver mêlé à toutes les histoires qui se passaient à l'université. Depuis quelque temps, cependant, on n'entendait plus guère parler de lui, et le bruit courait qu'il allait se marier. Ben, évidemment, pensais-je, c'est sa fiancée. Je m'assis sur une banquette au centre de la salle et je l'ai suivi des yeux, tout en feignant de lire un catalogue. Plus je la regardais, plus j'étais frappé de sa beauté qui retenait toute mon attention. De proportions parfaites, elle avait des mouvements si harmonieux, un port si gracieux, que c'est seulement par comparaison que l'on s'apercevait qu'elle était de taille plutôt au-dessous de la moyenne. Comme je demeurais les yeux fixés sur elle, Reeves s'absenta, laissant la jeune femme seule dans la salle. Tournant le dos au tableau, elle se mit, pendant l'absence de son compagnon, à examiner la foule des visiteurs d'un air assuré, sans sembler se préoccuper le moins du monde des yeux qui se braquaient sur elle avec curiosité, attirés par sa beauté et son élégance. Une main appuyée sur le cordon de soie rouge qui courait autour de la salle, elle se tenait debout, dans une posture languissante, tandis que ses yeux allaient d'un visage à l'autre avec autant d'insouciance s'ils se fussent portés sur les portraits qu'elle avait derrière elle. Et tout à coup, je vis son regard prendre une expression de fixité, d'intensité, telle que je suivis la direction de ses yeux, me demandant qui dans cette foule pouvait attirer si fortement son attention. John Barrington Cowles était penché sur un tableau qu'il examinait avec attention, se présentant de profil dans une pose qui faisait ressortir sa beauté. Il avait complètement oublié tout ce qui l'entourait et toute son âme était absorbée par le tableau qu'il avait devant lui. Ses yeux brillaient et une coloration rose était montée à ses joues olives. La jeune femme continua à tenir son regard fixé sur lui, avec un air de profond intérêt, jusqu'au moment où mon ami sortit de sa rêverie, avec un tressaillement, et se retournant, leurs yeux se rencontrèrent. Elle détourna immédiatement son regard, mais les yeux de Cowles demeurèrent fixés sur elle quelques instants. Il avait déjà oublié le tableau, et son âme était redescendue sur terre. Nous la revîmes encore une ou deux fois, et chaque fois je remarquais que les yeux de mon ami s'attachaient sur elle, mais il ne m'adressa pas la parole à son sujet, jusqu'au moment où nous fûmes sortis de la salle. Une fois dans la rue, il me prit le bras et me dit, après quelques instants de silence, « Avez-vous remarqué cette jeune femme en toilette noire avec une fourrure blanche ?»« Oui, je l'ai vue, » répondis-je. « La connaissez-vous ?» continua-t-il vivement. « Savez-vous qui elle est ?»« Non, je ne la connais pas personnellement, mais je pense qu'il ne sera pas difficile de savoir qui elle est, car je crois qu'elle est fiancée au jeune Reeves, et comme nous avons des amis communs... »« Fiancée ?» interrompit Cowles. « Eh, mon cher, » dis-je en riant, « qu'est-ce qui vous prend, mais... qu'est-ce que cela peut bien vous faire qu'une jeune fille que vous ne connaissez même pas soit fiancée ou non ?»« Oh, rien !» répondit-il avec un rire forcé. « Cependant, je ne veux pas vous cacher, arbitrage, que je ne me suis jamais senti aussi troublé de ma vie. Oh, c'est pas simplement sa beauté qui m'a frappé, malgré sa perfection. » C'est l'expression d'intelligence de sa figure. Oh, j'espère, si elle est fiancée, que c'est un homme qui sera digne d'elle. Ma foi, lui dis-je, vous parlez comme si vous étiez directement intéressé à la chose. Vous avez reçu le coup de foudre, John. Vous voilà amoureux de cette jeune fille. Et puisque vous y tenez, je me renseignerai sur elle et je vous tiendrai au courant. Barrington Coles me remercia et la conversation roula sur d'autres sujets. Nous restâmes quelques jours sans faire allusion à cette rencontre, bien que mon camarade me parut plus distrait et plus rêveur que de coutume. J'avais presque oublié l'incident quand, un jour, Brody, un de mes cousins, m'aborda sur les marchés de l'université par ses paroles. « Dis donc, vous connaissez Reef, n'est-ce pas ?»« Oui, eh bien. »« Ben, son mariage est rompu. » »« Rompu ? Mais il y a à peine 8 jours que j'ai appris par la première fois qu'il était fiancé. »« Oh non, c'est fini, mon frère me l'a assuré. C'était pourtant une belle fille, vous la connaissez ?» « Oh, je l'ai aperçue, dis-je, mais je ne la connais pas. »« C'est une demoiselle Northcott. Elle vit avec une vieille tante dans Aberdeen Street. »« Personne ne sait rien de sa famille, ni d'où elle vient. »« En tout cas, elle n'a vraiment pas de chance. »« Pas de chance, pourquoi ?»« Ben, c'est la seconde fois qu'elle a dû se marier, » continua Brody, qui était la gazelle vivante de l'université, et qui était au courant de tout ce qui se passait. » Oui, elle était fiancée à Prescott, vous savez, William Prescott, qui est mort de façon si tragique. Bien, le jour du mariage était fixé et tout marchait à souhait quand la catastrophe se produisit. Quelle catastrophe ? Demandai-je avec un vague souvenir des circonstances. Mais la mort de Prescott ! Il alla un soir chez Miss Northcott et y resta jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Personne ne sait exactement à quel moment il en sortit, mais à 1 heure du matin, il fut rencontré par un étudiant qui le rencontra se dirigeant d'un pas rapide dans la direction de Queen's Park. Il l'appela à plusieurs reprises, mais Prescott continua son chemin sans répondre, et ce fut la dernière fois qu'on l'aperçut vivant. 3 jours après, son corps fut retrouvé flottant dans la Tamise, près du pont de Blackfriars. Mais on ne connut la cause de sa mort, qui fut attribuée à un accident. Oui, c'est très étrange, dis-je. Oui, la jeune fille est à plaindre. Ce nouveau coup est capable de la battre complètement. Elle a l'air si doux et si distinguée. Vous la connaissiez personnellement ? Lui demandai-je. Oui, nous sommes rencontrés dans le monde. Rien ne me sera plus facile que de vous présenter. Je vous remercie, lui dis-je, surtout pour un de mes amis, mais je pense qu'on ne la verra guère de quelque temps après ce malheur qu'elle vient d'éprouver. Quand elle retournera dans le monde, je profiterai de votre offre. Nous échangeâmes une poignée de main et j'oubliai bientôt cette affaire. Il me faut maintenant relater un incident pénible, mais que je suis tenu de raconter dans tous ses détails, car il pourra peut-être aider à jeter quelques lumières sur le reste de l'affaire. Quelques mois après la conversation que je viens de rapporter, je revenais de voir un malade dans une des bas quartiers de Londres. Il était tard et je marchais rapidement, quand d'un groupe d'ivrognes qui se querellaient devant la porte d'un marchand de vin, se détacha un homme qui vint à moi en titubant et me tendit la main. La lumière du bec de gaz tombait en plein sur le visage de l'homme, et j'eus un mouvement de surprise en reconnaissant, dans cet état d'avilissement, mon ancien camarade, le jeune Archibald Reeves, dont toute l'université vantait autrefois l'élégance et le raffinement. Tout d'abord, je doutais de mes propres sens, mais il n'y avait pas d'erreur possible. C'était bien là les traits d'Archibald Reeves, quoique défigurés par l'ivrognerie. Je résolus de l'arracher, ne fût-ce que pour une nuit, à son vice et au milieu dans lequel il était tombé. Je lui pris le bras et je l'entraînai avec moi, tandis qu'il balbutiait des excuses sur son état d'une voix à peine intelligible. Mais comme je le soutenais, je m'aperçus qu'il ne souffrait pas seulement d'une débauche récente, mais qu'une longue période d'intempérance avait affecté ses nerfs et son cerveau. Sa main était sèche et fiévreuse, et il reculait avec un sursaut chaque fois que nous sortions de la lueur d'un bec de gaz pour entrer dans une barre d'ombre sur la chaussée de la rue. Il divaguait d'une façon qui indiquait un effet de la fièvre plutôt que de l'ivresse. Quand je fus parvenu à le faire monter jusqu'à sa chambre, je le déshabillai et le couchai. Son pouls était précipité et il était dans un état de fièvre intense. Il sembla s'assoupir et je me disposais à sortir sans bruit pour avertir sa propriétaire et la prier de veiller sur lui, quand il se redressa tout d'un coup et me cria « Ne partez pas, je vous en prie. Je me sens mieux depuis que vous êtes avec moi. Je me sens protégé contre elle lorsque vous êtes là. » « Elle qui... Qui elle » dis-je. « Elle, elle !» répondit-il avec des yeux remplis d'une expression de terreur. « Ah, vous ne la connaissez pas, c'est le démon lui-même. Elle est belle, belle, mais c'est le démon. »« Vous avez la fièvre, lui dis-je, essayez de dormir, le sommeil vous fera du bien. » Dormir, mais comment puis-je dormir quand je la vois assise au pied de mon lit, avec ses grands yeux qui ne me quittent pas un seul instant? C'est cela qui m'enlève toute énergie, qui me force à boire et qui me tue. Oh, Dieu me pardonne, je suis encore à moitié ivre. Vous êtes malade, dis-je en lui bassinant les tempes avec du vinaigre. Vous avez le délire, vous ne savez pas ce que vous dites. Et si, je sais, interrompit mon ton de colère, je sais très bien ce que je dis. C'est moi qui l'ai voulu. Je ne pouvais pas, non, je ne pouvais pas accepter l'alternative. Comment aurais-je pu continuer de l'aimer? C'était au-dessus des forces d'un homme. Je m'étais assis à son chevet, tenant une de ses mains brûlantes dans les miennes, et me demandant ce que signifiaient ces étranges paroles. Il resta calme un moment, puis, levant les yeux sur moi, il me dit d'une voix plaintive « Mais pourquoi ne m'avait-elle pas averti plus tôt? Pourquoi a-t-elle attendu pour me dévoiler ce secret, que mon amour fut trop fort pour pouvoir me passer d'elle ?» Il répéta ces paroles à plusieurs reprises en roulant sur son oreiller sa tête brûlante de fièvre, puis il finit par tomber dans un sommeil agité. Je sortis de la chambre et après m'être assuré que sa propriétaire ne le quitterait pas, je rentrai chez moi. Mais ces paroles ne cessaient de me résonner dans les oreilles pendant plusieurs jours, encore après cette aventure, et elles prirent par la suite une signification plus précise. Mon ami Coles était parti en vacances et je fus quelque temps sans voir de ses nouvelles. Lorsque les cours de l'université recommencèrent, je reçus de lui un télégramme pour me prier de lui retenir son ancien appartement et il me donna l'heure de son arrivée par le train. J'allai à sa rencontre et je fus heureux de voir qu'il était en excellent état de santé et très gai. À propos, me dit-il tout à coup, comme nous étions assis près du feu, nous racontant la façon dont nous avions passé les vacances. Vous ne m'avez pas encore félicité. Félicité de quoi? Mais de mon futur mariage. Comment, vous n'en avez pas entendu parler? Non, répondis-je, mais je suis enchanté d'apprendre cette nouvelle et je vous félicite cordialement. Je m'étonne que vous n'en ayez rien su, c'est singulier. Vous vous rappelez cette jeune fille que nous avions admirée à l'exposition de peinture? Quoi? M'écriai-je avec un vague sentiment d'appréhension. C'est pas à cette jeune fille que vous êtes fiancée. Je m'attendais à votre surprise. Comme je passais quelque temps chez une vieille tante à Peterhead, près d'Aberdeen, Je me suis rencontré là avec Miss Northcott, qui était chez des amis à nous. Je ne tardais pas à apprendre que le bruit qui avait couru de son mariage était une fausse alarme. Et alors, vous comprenez, quand on se trouve en compagnie d'une jeune fille pareille et dans un coin perdu comme Peterhead. Non pas, ajouta-t-il vivement, que je crois avoir fait une sottise. Je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Plus je connais Kate, et plus je l'admire et plus je l'aime. Mais il faut que je vous présente à elle afin que vous puissiez vous faire une opinion sur elle. Je lui exprimais le plaisir que j'aurais à la connaître et j'essayais de paraître gai. Mais au fond du cœur, je me sentais triste et plein d'anxiété. Les paroles de Reeves et la fin tragique de Prescott me revinrent en mémoire. Bien qu'il me fût impossible d'y assigner une raison plausible, un sentiment de crainte et de défiance à l'égard de cette femme s'empara de moi. Il est possible qu'il y eût de ma part une superstition, une sorte de prévention qui me faisait interpréter par anticipation ses paroles et ses actions futures, conformément à je ne sais quelle vague et fantastique théorie de mon cerveau. C'est là une explication qui m'a été proposée par quelques personnes. Je leur laisse volontiers cette opinion si elles peuvent la concilier avec les faits que j'ai à rapporter. À quelques jours de là, j'allais en compagnie de mon ami faire une visite à Miss Northcott. Je me rappelle qu'au moment où nous arrivions devant la maison qu'elle habitait, notre attention fut attirée par les hurlements d'un chien à l'intérieur. On nous introduisit au salon où je fus présenté à la tante de Miss Northcott et à la jeune fille elle-même. Celle-ci était aussi belle que jamais et je n'avais pas lieu de m'étonner de l'enthousiasme de Coles. Les couleurs de son visage étaient plus vives que d'ordinaire et elle tenait dans sa main un fouet avec lequel elle venait de donner une correction à un griffon écossais, ce qui expliquait les hurlements que nous avions entendus de la rue. La pauvre bête, ramassée sur elle-même dans un coin de la pièce, poussait des gémissements plaintifs. Et ses yeux suivaient avec une expression terrifiée chaque mouvement de sa maîtresse. Eh bien, Kate, dit mon ami, lorsque nous fûmes assis, qu'est-ce qu'il a donc fait encore, ce pauvre Carlo? Oh, pas grand-chose cette fois, répondit-elle avec un sourire plein de charme. C'est une bonne bête, mais il a besoin d'une correction de temps en temps. Puis, se tournant vers moi, nous avons tous besoin d'être corrigés, n'est-ce pas, monsieur Armitage? Dit-elle. Quelle bonne chose ce serait si, au lieu d'une punition générale à la fin de notre vie, nous en recevions une comme les chiens, chaque fois qu'il nous arrive de faire leur mal. Cela nous rendrait peut-être plus attentifs, n'est-ce pas, votre avis? Assurément, répondis-je, cela serait peut-être préférable. Si chaque fois qu'un homme faisait mal, une puissante main lui administrait une correction jusqu'à ce qu'il en perdît connaissance, et elle serrait ses doigts blancs sur le manche du fouet qu'elle faisait claquer rageusement en scandant ces mots, cela contribuerait mieux à le maintenir dans le droit chemin que toutes les belles théories des moralistes. Mais vous êtes féroce aujourd'hui, Kate, dit mon ami. Non, John, dit-elle en riant, c'est une simple théorie que je soumets à l'examen de monsieur Armitage. Les deux amoureux se mirent à causer ensemble de leurs souvenirs d'Aberdeen, et j'eus le temps d'observer madame Merton, qui était demeurée silencieuse tout le temps de notre conversation. C'était une vieille dame à l'air singulier. Ce qui attirait l'attention en elle, c'était l'absence complète de couleur sur son visage qui était d'une pâleur extrême, que relevait à peine la teinte bleutée de ses yeux. Ses cheveux étaient d'un blanc de neige et le sang semblait absent de ses lèvres mêmes. Elle portait une toilette de soie grise qui s'harmonisait bien avec son apparence générale. Elle avait une expression toute particulière dont, au premier abord, je ne pus m'expliquer la cause. Elle travaillait à une sorte de vieille tapisserie, et chaque fois qu'elle faisait un mouvement, Sa toilette produisait une sorte de bruissement sec, mélancolique, comme le froissement des feuilles à l'automne. Elle donnait une impression de tristesse indéfinissable. Je rapprochai ma chaise et je lui demandai comment elle trouvait Édimbourg et depuis combien de temps elle y habitait. Lorsque je lui adressai la parole, elle tressaillit et me regarda d'un air effaré. Je me rendis compte à ce moment de ce qui lui donnait cette expression que j'avais remarquée. C'était une expression de crainte, de frayeur intense, si marquée que j'aurais pu jurer que cette femme avait dû, à un moment de sa vie, passer par des épreuves terribles. « Bon, » me répondit-elle d'une voix timide, sans intonation, « il y a longtemps déjà que nous habitons ici, c'est-à-dire pas très longtemps. Nous voyageons beaucoup. » Elle parlait d'une voix hésitante, comme si elle eût craint de trop s'avancer. « Vous êtes originaire d'Écosse, je crois, » poursuivis-je. « Non, non, c'est-à-dire pas absolument. Nous ne sommes d'aucun pays, nous sommes cosmopolites, vous savez. » Et tout en parlant, elle regardait du côté de Miss Northcott, mais celle-ci était en conversation animée avec son fiancé et ne faisait aucune attention à nous. Tout à coup, elle se pencha vers moi avec une expression d'inquiétude sur le visage et me dit « Cessez de me parler, je vous prie. Cela lui déplaît et j'en souffrirai. Je vous en prie, ne me parlez plus. » J'allais lui demander la raison de ces étranges façons, mais quand elle vit que je me disposais à lui adresser de nouveau la parole, elle se leva et sortit lentement du salon. Je m'aperçus alors que les deux amoureux avaient cessé de causer et que Miss Northcott fixait sur moi ses yeux gris perçants. « Veuillez excuser ma tante, monsieur Hermitage, dit-elle. Elle est un peu originale, et un rien la fatigue. Venez voir mon album. » Je passai en revue avec elle les photographies de l'album. Le père et la mère de Miss Northcott me parurent être des mortels assez ordinaires, et je ne découvris en eux aucune trace de ce caractère qui se montrait sur le visage de leur fille. Cependant, un vieux daguerréotype attira mon attention. C'était le portrait d'un homme d'environ 40 ans, d'une beauté frappante. La figure était entièrement rasée et la mâchoire inférieure proéminente. La bouche ferme exprimait une énergie et une force de volonté peu communes. Les yeux étaient légèrement enfoncés sous les orbites et le sommet du crâne présentait cette particularité qu'il était aplati comme chez les serpents. Quand je vis cette photographie, je m'écriai presque involontairement « Et voilà votre prototype de famille, Miss Northcott. »«
Oh, vous trouvez, » dit-elle. Oh, « J'ai bien peur que vous ne me fassiez un mauvais compliment, Monsieur Hermitage. » Mon oncle Anthony a toujours été considéré comme la bête noire de la famille.
« Vraiment, » répondis-je, « ou alors oubliez, je vous prie, ma remarque malheureuse. »«
Oh, ne vous excusez pas. Mon opinion à moi, c'est qu'il valait mieux que tout le reste mis ensemble. » Il était officier au 41e régiment et il est mort sur le champ de bataille pendant la guerre de Perse. Il est mort noblement, dans tous les cas.
« Voilà la mort que j'envirai, » dit Coles. « J'ai souvent regretté de n'avoir pas suivi la profession de mon père, au lieu de ce métier de fabricant d'ordonnances et de pilules. »«
Allons, John, » interrompit Miss Northcott en lui prenant tendrement la main. Vous n'en êtes pas encore à choisir votre genre de mort. Cette femme était vraiment une énigme incompréhensible. Il y avait en elle un mélange si extraordinaire de décision virile et de tendresse féminine, avec quelque chose de bien personnel que je ne savais que penser d'elle. Aussi je ne sus guère quelle réponse faire quand une fois dehors, Coles me demanda « Eh bien, comment la trouvez-vous ? »
« Je la trouve admirablement belle, » répondis-je évasivement.
« Oui, c'est évident, » dit-il d'un ton un peu sec. « Oh, je la crois aussi très intelligente, » ajoutai-je. Coles continua de marcher quelque temps, puis Se tournant brusquement vers moi, il me fit cette étrange question. Croyez-vous qu'elle soit méchante et qu'elle soit femme à faire de la peine par plaisir? Oh, ma foi, répondis-je, n'ai guère eu le temps de me faire une opinion sur ce point. Puis nous continuâmes notre route en silence. C'est une vieille toquée, dit enfin Corse, elle est folle. Qui? Demandai-je. Cette vieille femme, la tante de Kate, Madame Norton. Je devinai que ma pauvre amie avait parlé à Coles, mais celui-ci ne me répéta pas un mot de ce qu'elle avait bien pu lui dire. Mon amie se mit au lit de bonne heure ce soir-là, et je restai longtemps assis seul près du feu, repensant dans mon esprit tout ce que j'avais vu et entendu. Je sentais qu'il y avait quelque chose de mystérieux autour de cette jeune fille, une étrange et sombre fatalité défiant les conjectures. Je me rappelais la brusquerie de son mariage avec Prescott, suivi aussitôt de la mort tragique de ce dernier. Les paroles étranges du pauvre Reeves dans son ivresse. Pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt? Puis je songeais à ma conversation avec Madame Norton, à l'allusion de Coles, à l'incident du chien et du fouet. Ces pensées me laissèrent dans l'esprit une impression d'inquiétude. Cependant, il m'était impossible de porter une accusation formelle contre cette femme. Il serait plus qu'inutile d'essayer de mettre en garde mon ami avant de pouvoir préciser le danger qu'il courait. Que faire? Et comment arriver à connaître le caractère et les antécédents de ces deux femmes? Personne ne les connaissait à Édimbourg. Personne ne savait d'où elles venaient. À force d'y penser, il me vint une idée. Parmi les amis de mon père se trouvait le colonel Joyce, qui avait servi longtemps aux Indes et dans l'état-major, et qui devait connaître la plupart des officiers qui avaient pris part à la campagne de la rébellion. Je lui écrivis sur le champ pour lui dire que je serais très heureux d'avoir des renseignements sur un certain capitaine Northcott, ayant appartenu au 41e régiment de ligne, et qui devait avoir été tué pendant la guerre de Perse. Je lui dépeignis l'homme aussi exactement que je le pus d'après mes souvenirs du daguerréotype. Je jetai la lettre à la poste le soir même, et je me mis au lit, mais je ne dormis guère cette nuit-là. J'ai reçu 2 jours après une réponse du colonel Joyce qui habitait Leicester. Je l'ai devant moi au moment où j'écris et je la copie textuellement. « Mon cher Robert, me disait-il, je me rappelle très bien l'homme. J'ai été avec lui à Calcutta, puis à Hyderabad. C'était un original, peu communicatif, assez brave soldat cependant, car il se distingua sobrement où il fut blessé, si je me souviens bien. » Il n'était pas aimé de ses camarades ni de ses hommes. C'était, disait-on, un individu sans pitié, d'une cruauté froide. Il passait pour avoir le mauvais œil et pour entretenir les relations avec le diable. Enfin, des absurdités, évidemment. Il avait, je me le rappelle, d'étranges théories touchant la puissance de la volonté humaine et les effets de l'esprit sur la matière. Bon, où en êtes-vous de vos études médicales? N'oubliez pas, mon cher garçon, que si je puis vous être utile en quoi que ce soit, vous me trouverez toujours prêt à rendre service au fils de mon vieil ami et compagnon d'armes. Votre tout dévoué, Edward Joyce. Postscriptum. À propos, Northcott n'est pas mort sur le champ de bataille, mais dans je ne sais quelle tentative qu'il fit pour dérober le feu éternel d'un temple des adorateurs du soleil. Sa mort fut entourée de circonstances mystérieuses. Je relus cette lettre plusieurs fois, d'abord avec un sentiment de satisfaction, puis de désappointement. J'avais obtenu des renseignements curieux, certainement, mais ce n'était pas encore ce que je voulais. L'homme était un original qui passait pour avoir le mauvais œil et pour entretenir des relations avec le diable. Les yeux de la jeune femme aussi, avec cet éclat froid et gris que j'avais remarqué une fois ou deux, étaient bien capables, à mon avis, de tout le mal que peut causer un œil humain. Mais c'était là une superstition indigne de retenir l'attention. N'y avait-il pas une signification plus profonde? Dans la phrase suivante, il avait d'étranges théories touchant la puissance de la volonté humaine et les effets de l'esprit sur la matière. Je me souviens d'avoir lu une singulière brochure que je considérais alors comme du pur charlatanisme sur le pouvoir de certains esprits humains et les effets qu'ils peuvent produire à distance. N'était-il pas possible que Miss Northolt fût douée d'un pouvoir exceptionnel de cette nature? L'idée se fit plus forte en moi et je ne tardais pas à avoir la preuve que ma supposition était vraie. Dans le temps même où mon esprit était entièrement absorbé par ce sujet, les journaux de la ville publièrent l'annonce d'une séance que se proposait de donner le professeur Messinger, le médium et magnétiseur bien connu. De l'avis des gens compétents, les expériences du docteur Messinger étaient absolument sincères. Il était au-dessus de tout soupçon de supercherie, et il avait la réputation d'être l'homme le plus compétent en ce qui concernait cette étrange pseudo-science du magnétisme animal et de l'électrobiologie. Aussi, résolu à voir ce que pouvait faire la volonté humaine, même dans ces conditions désavantageuses que présente la rampe d'une scène de théâtre, je pris un billet et je me rendis à la séance en compagnie de plusieurs amis. Nous avions pris une loge de côté et la séance était commencée quand nous arrivâmes. J'avais à peine pris ma place que je reconnus Barrington Cowles avec sa fiancée et Madame Mergon, assis au quatrième rang des fauteuils. Ils m'aperçurent au même moment et nous échangeâmes un salut. La première partie du programme fut assez peu intéressante, l'opérateur se bornant à de simples tours de prestidigitation, variés par une ou deux expériences de magnétisme sur un sujet qui l'accompagnait. Il nous donna une expérience de lucidité en endormant son sujet en l'interrogeant sur des personnes absentes et en lui faisant retrouver dans la salle des objets cachés, ce dont il parut se tirer à la satisfaction générale. Mais tout cela n'était pas nouveau pour moi. Ce que je tenais à voir, c'était l'effet de la volonté de l'opérateur sur une personne de l'assistance. Nous arrivâmes enfin à ce numéro du programme. « Je vous ai montré, dit le professeur, qu'un sujet magnétisé est entièrement dominé par la volonté du magnétiseur. Il perd tout pouvoir de vos révolutions et ses pensées elles-mêmes ne sont que celles qui sont suggérées. Une volonté forte peut, par la seule vertu de sa force, s'emparer d'une volonté plus faible, en diriger à sa guise les impulsions et les actes. S'il existait dans le monde un homme doué d'une volonté beaucoup plus forte que celle d'aucun autre dans la famille humaine, il n'y a pas de raison pour que cet homme pût réduire ses semblables à l'état d'automate. Heureusement, le niveau de la force mentale est si bien égalisé qu'il n'y a guère à craindre qu'une pareille catastrophe se produise jamais. Cependant, il y a des différences qui peuvent engendrer des effets surprenants. Je vais choisir une personne dans cette salle et essayer, par le simple pouvoir de ma volonté, de la forcer à venir sur cette scène et à faire et dire ce que je voudrais. Laissez-moi vous assurer qu'il n'y a pas de connivence. Et le sujet que je vais choisir est parfaitement libre de s'opposer de tout son pouvoir à toute impulsion que je pourrais lui communiquer. » Après ce petit préambule, le magnétiseur s'avança sur le devant de la scène et promena son regard sur les premiers rangs de fauteuils. Sans doute le teint bruni de Cowles et ses yeux brillants le désignèrent comme un sujet d'un tempérament nerveux éminemment propre à l'expérience, car le magnétiseur le choisit. Je vis mon ami faire un mouvement de surprise, puis se renforcer dans son fauteuil, comme pour exprimer sa résolution de ne pas céder à l'influence de l'opérateur. La physionomie de Massinger ne dénotait pas une puissance cérébrale extraordinaire, mais son regard avait une acuité et une pénétration intenses. Sous l'influence de ce regard, Cole fit un ou deux mouvements spasmodiques des mains, comme pour empoigner les bras de son fauteuil. Puis il se leva à demi, mais pour se rasseoir de nouveau, bien qu'avec un effort évident. Je suivais cette scène avec le plus grand intérêt, quand mes yeux se portèrent par hasard sur le visage de Miss North Scott. Elle regardait fixement le magnétiseur avec une expression concentrée sur ses traits, telle que j'en avais jamais vu de pareil sur une autre figure humaine. Ses lèvres étaient serrées, son menton se projetait en avant et son visage aussi dur que s'il eût été taillé dans le marbre le plus blanc. Sous ses paupières légèrement abaissées, ses yeux gris semblaient lancer des éclairs froids. Je regardais Coles de nouveau, m'attendant à chaque instant à le voir se lever et obéir à la volonté du magnétiseur, quand de la scène partit le cri d'un homme épuisé par une longue lutte. Messenger était appuyé contre la table, la main au front et la sueur lui coulant sur la figure. « Oh, je ne peux pas continuer, » dit-il en s'adressant au spectateur. « J'ai contre moi une volonté plus forte que la mienne. Je vous prie de m'excuser. » Le magnétiseur était évidemment malade et incapable de poursuivre ses expériences. Aussi le rideau tomba et la salle se vida, tandis que chacun commentait cette indisposition soudaine de l'opérateur. J'attendis mon ami à la sortie. Il était avec ses fiancées, Madame Morton. « Il n'a pas réussi avec moi, » dit-il avec un air de triomphe, comme il me tendait la main. « Je crois qu'il a trouvé son maître cette fois. » « Oui, » dit Miss Northcott, « John doit être fier de sa force de volonté, n'est-ce pas, Monsieur Armitage ?»« Cela n'a pas été sans peine, » dit mon ami. « Vous ne vous imaginez pas quelle étrange sensation j'ai éprouvée une ou deux fois. Oh, il me semblait que toute ma force m'abandonnait, surtout à maman avant qu'il ne se déclarât vaincu. » J'accompagnais ces dames chez elles avec Coles. Il allait devant avec Madame Merton et je me trouvais moi-même à quelques pas en arrière avec Miss Northcott. Je marchais d'abord en silence et tout à coup, obéissant à je ne sais quelle brusque impulsion, je lui dis à brûle-pourpoint « C'est vous, Miss Northcott, qui avez fait cela ?»«
Quoi ?»«
C'est vous qui avez magnétisé le magnétiseur. » C'est, je crois, l'expression la plus exacte que je puisse employer.
« Quelle drôle d'idée !» répondit-elle en riant. « Vous me croyez donc doué d'une bien forte volonté ?»«
Oui, dis-je, d'une volonté, d'une puissance dangereuse. »«
Pourquoi dangereuse ?»
demanda-t-elle d'un ton de surprise.
« Oh, je pense, répondis-je, qu'une volonté capable d'exercer un pareil pouvoir est dangereuse, car il y a toujours à craindre que l'on en fasse mauvais usage. »
« Vous me prenez pour une personne bien terrible, Monsieur Armitage, » dit-elle. Puis me regardant soudain bien en face, « Vous me détestez, n'est-ce pas? Vous vous méfiez de moi, bien que je ne vous ai jamais donné aucune raison pour cela. » L'accusation était si soudaine et si vraie que je ne me trouvais aucune réponse. Puis elle ajouta d'une voix dure et froide, « Monsieur Armitage, que vos préventions contre moi ne vous fassent pas vous mettre en travers de mes projets en amenant une brouille entre M. Coles noir. Vous apercevriez bientôt que ce serait une mauvaise politique de votre part et vous le regretteriez. » Il y avait dans la façon dont elle prononça ces dernières paroles un ton de menace qui ne m'échappa pas. « Il n'est pas en mon pouvoir, dis-je, de m'opposer à vos projets. Je ne puis m'empêcher toutefois de concevoir des craintes pour mon ami. » Après ce que j'ai vu et entendu.
« Des craintes !» répéta-t-elle d'un ton de dédain. « Mais qu'avez-vous donc vu et entendu ?»«
Ah, cela vient de M. Reeves, sans doute. Je crois que c'était un de vos amis. »«
Il m'a jamais parlé de vous, » répondis-je, « somme toute, c'était la vérité. »«
Eh bien, vous aurez le chagrin d'apprendre qu'il est mourant. » Nous passions à ce moment devant les fenêtres éclairées d'un magasin. et je regardais Miss Northcott pour voir quel effet cette nouvelle lui produisait. Et je vis qu'elle riait. Il n'y avait pas à en douter, elle riait en elle-même. Tous ses traits exprimaient la joie. À partir de ce moment, j'eus plus que jamais horreur de cette femme. Nous ne causâmes plus guère ce soir-là. Quand nous nous quittâmes, elle me lança un rapide coup d'œil comme pour me rappeler le danger que je courais en intervenant dans ses projets. Je me serais fort peu soucié de ses menaces si seulement j'avais pu trouver un moyen de mettre Cowles sur ses gardes. Mais que pourrais-je lui dire? Que le malheur avait poursuivi ses autres adorateurs, que je la croyais cruelle, douée d'un pouvoir extraordinaire, presque surnaturel. Mais quelle impression une pareille accusation pourrait-elle faire sur un homme amoureux, une nature aussi enthousiaste que mon ami? Je sentais que tout ce que je pourrais dire serait inutile. Aussi je me tus. Me voici arrivé au début du dénouement. Jusqu'ici, tout n'a été que conjecture, déduction. J'ai le pénible devoir de raconter maintenant, sans passion, et aussi exactement que possible, les événements qui précédèrent la mort de mon ami. Je me bornerai à les relater sans y ajouter de commentaires. Vers la fin de l'hiver, Cowles m'annonça qu'il avait l'intention de fixer la date de son mariage au printemps prochain. Il était, comme je l'ai dit, en possession d'une jolie fortune et, de son côté, sa fiancée avait une dot fort convenable. « Nous louerons une petite maison à Costofine, me dit-il, et j'espère que nous nous verrons souvent à notre table. » Je le remerciai et j'essayais de chasser mes appréhensions et de me persuader que tout serait pour le mieux en fin de compte. 3 semaines environ avant l'époque fixée pour le mariage, Cowles me dit un soir qu'il rentrerait tard. « J'ai reçu, me dit-il, un mot de Kate, me priant de passer chez elle vers 11 heures ce soir. L'heure me semble singulière, mais peut-être a-t-elle à m'en retenir hors de la présence de sa tante. » Ce ne fut qu'après le départ de mon ami que le souvenir me revint de l'entrevue qui avait précédé le suicide du jeune Prescott. Puis je pensais aux divagations de Reeves, qui prirent un sens d'autant plus tragique que j'avais appris sa mort le jour même. Et que signifiait tout cela? Cette femme avait-elle quelque terrible secret qui lui était nécessaire de révéler avant son mariage? Je me sentis si inquiet que je pris le parti de courir après Cowles pour lui dissuader d'aller à ce rendez-vous. Mais un coup d'œil jeté à la pendule m'apprit qu'il était trop tard. Je résolus donc d'attendre son retour. Je mis des bûches dans le foyer et je pris un roman, mais mes pensées furent plus intéressantes que le livre et je reposai celui-ci sur la table. Un sentiment indéfinissable d'anxiété s'était emparé de moi. J'entendis sonner minuit, puis la demi, et mon ami ne revenait pas. Il était près d'une heure quand j'entendis des pas dans la rue, puis un coup frappé à la porte. Je fus surpris, car je savais que mon ami avait sa clé. Je me hâtai de descendre, cependant, pour lui ouvrir. Mais à peine la porte était-elle ouverte que je vis que mes appréhensions s'étaient réalisées. Barrington Cowles se tenait appuyé contre le montant de la porte, la tête affaissée sur la poitrine, dans une pose qui exprimait un abattement absolu. Il chancela comme il entrait, et il serait tombé si je ne l'avais pas soutenu. Le maintenant avec mon bras gauche et tenant la lampe à l'autre main, je l'aidai à monter jusqu'à sa chambre. Arrivé là, il se laissa tomber sur le canapé, sans prononcer une parole. Il était d'une pâleur mortelle et le sang semblait s'être retiré de ses lèvres. Ses yeux étaient vitreux et tout son visage était moite. Il avait absolument l'air d'un homme qui vient de passer par quelque épreuve terrible. « Mon cher ami, » dis-je en rompant le silence, « mais qu'y a-t-il donc? Vous paraissez malade. Oh, »« Oh, du cognac! Donnez-moi du cognac !» répondit-il d'une voix haletante. Je pris le carafon sur la table et je me disposais à en verser dans un verre quand il m'arracha le flacon des mains d'un geste brusque et remplit presque entièrement le verre. Il était d'ordinaire très sobre, mais il but le tout d'un trait, sans même y ajouter de l'eau. Cela sembla le ranimer, il reprit un peu de couleur et me dit en reposant le verre sur la table « Mon mariage est rompu, tout est fini, bien fini. » Il essayait de parler avec calme, mais sa voix tremblait. « Allons, du courage, lui dis-je, ne vous laissez pas abattre. Que s'est-il passé ?»« Oh, ce qui s'est passé, » dit-il en se couvrant le visage avec ses mains. « Mais si je vous le disais, Robert, vous ne me croiriez pas. Oh, c'est trop incroyable, trop horrible. Avoir cru trouver un ange et ne trouver qu'un... »« Un quoi ?» poursuivis-je, car il s'était arrêté. « Un démon » cria-t-il en levant vers moi les yeux hagards. « Un démon sorti de l'enfer. Une goule, une âme de vampire, avec une figure d'ange. » « Dieu me pardonne, » continua-t-il en baissant la voix, « je vous en dis plus que je l'aurais dû. Je l'ai trop aimée, pour parler ainsi d'elle, je l'aime trop encore. » Et en disant ces mots, il se retourna du côté du mur. Je restai quelque temps sans bouger, espérant que le cognac le ferait dormir. Quand, après un quart d'heure environ, il se retourna de mon côté. « Avez-vous jamais entendu parler des loups-garous ?» me demanda-t-il. « Oui, » répondis-je, « ma nourrice m'en parlait quelquefois. »« Eh bien, il y a dans Marryat, » dit-il pensivement, « un passage où il est question d'une femme qui prenait la nuit la forme d'une louve et dévorait ses enfants. Je me demande où Marryat a pu aller chercher une telle idée. » Il demeura quelque temps pensif, puis réclama encore du cognac. J'avais une fiole de laudanum et je réussis à en mêler quelques gouttes à l'alcool. Il but le tout d'un trait et laissa retomber sa tête sur l'oreiller tout en murmurant. « Oh, tout, plutôt que cela, la mort est préférable !» Il divagua ainsi quelque temps, puis peu à peu, ses paroles devinrent moins distinctes et il tomba dans un profond sommeil. Je restais près de lui toute la nuit. Au matin, Coles avait une fièvre intense. Pendant des semaines, il fut entre la vie et la mort. Toutes les sommités médicales d'Édimbourg furent appelées près de lui et, grâce à sa constitution vigoureuse, il finit par prendre le dessus de la maladie. Je le soignais pendant tout le temps, mais dans son délire et ses divagations, il ne lui échappa pas un mot qui pût éclaircir le mystère relatif à Miss Northcott. Parfois, il parlait d'elle avec des expressions les plus tendres. À d'autres moments, il criait que c'était un démon et il faisait le geste de la repousser. À plusieurs reprises, il cria qu'il ne voulait pas perdre son âme. « Et pourtant, je l'aime !» ajoutait-il. « Je ne cesserai jamais de l'aimer !» La maladie avait opéré chez lui un grand changement. Il était fort amaigri, mais ses yeux noirs n'avaient rien perdu de leur éclat. Ses manières étaient devenues excentriques. Tantôt, il était d'une gaieté extraordinaire, mais qui n'était pas naturelle. Tantôt, il avait des accès prolongés de tristesse, pendant lesquels il paraissait méfiant, soupçonneux, regardant autour de lui comme s'il eût craint quelque chose. Jamais il ne prononça le nom de Miss Northcott jusqu'à cette soirée dont il me faut maintenant parler. Afin d'essayer de changer le cours de ses pensées, je l'emmenai avec moi faire un voyage dans les hautes terres de l'Écosse. Puis nous redescendîmes par la côte est. Dans une de nos pérégrinations, nous visitâmes l'île de May à l'embouchure du Firth of Forth, d'une stérilité et d'une tristesse singulière quand la saison des touristes est passée. Un gardien de phare et deux ou trois familles de pêcheurs gagnant misérablement leur pauvre vie avec leurs filets ou par la capture des cormorans et des oies sauvages sont les seuls habitants de ce lieu désolé qui exerça sur Cowles une telle fascination que nous louâmes une chambre dans une des huttes de pêcheurs avec l'intention d'y passer une semaine ou deux. Cette solitude semblait avoir un effet salutaire sur l'esprit de mon ami. Il perdit cet air d'appréhension qui lui était devenu habituel et il semblait redevenir tout à fait lui-même. Il passait les journées à faire des excursions dans l'île, restant des heures entières à regarder du haut des falaises à pic qui l'entourent les longues lames vertes qui se poursuivaient et se brisaient en le couvrant parfois de leur écume. Un soir, c'était le 8e ou le 9e que nous passions dans l'île, nous sortîmes, Ballington Cowles et moi, pour prendre l'air avant de nous mettre au lit, car notre chambre était étroite et la rampe fumeuse. Comme je me rappelle chacune des circonstances qui se rapportent à cette nuit-là, la nuit s'annonçait mauvaise, car les nuages s'empilaient dans le nord-ouest et de grosses taches noires, déchiquetées, passaient sur la face de la lune, plongeant alternativement dans l'ombre et dans la lumière le sol nu de l'île et les vagues toujours en mouvement de la mer. Nous étions revenus de notre promenade et nous causions près de la porte de la chaumière. Mon ami me paraissait plus gai que je ne l'avais vu depuis sa maladie. Quand tout à coup, il poussa un cri aigu et, me retournant, je vis à la lumière de la lune ses traits prendre une expression de terreur intense. Ses yeux se dilatèrent, son regard devint fixe comme rivé sur un objet qui se serait approché et il étendit son long doigt maigre qui tremblait. « Regardez là » cria-t-il, « c'est elle ! C'est elle ! Elle descend le tertre là-bas !» Et il me saisit le poignet convulsivement en parlant. « La voilà, elle vient vers nous !»« Mais qui ?» demandai-je, essayant de distinguer dans l'obscurité. « Mais elle, Kate, Kate Northcote !» cria-t-il. « Elle vient me chercher. Ne me lâchez pas, mon cher ami, ne me lâchez pas !»« Allons, Carl, dis-je en lui frappant sur l'épaule, remettez-vous. Vous rêvez, vous n'avez rien à craindre. » « Elle est partie, » dit-il avec un soupir de soulagement. « Non, non, par le ciel, la voilà encore, plus près, plus près. Oh, elle m'avait bien dit qu'elle viendrait me chercher. Elle tient sa parole. » « Rentrons, » lui dis-je en prenant la main que je sentis froide comme une glace. « Ah, je savais, » criait-il. « Là, voilà, elle m'appelle, c'est le signal, il faut que je la rejoigne. Je viens, Kate, je viens !» Je lui saisis le bras, mais il se dégagea avec une force surhumaine et s'élança dans la nuit. Je me précipitai après lui en lui criant de s'arrêter, mais il n'en courait que plus vite. La lune brilla un moment dans une déchirure de nuages et je pus apercevoir sa haute silhouette noire courant avec rapidité en ligne droite comme vers un but bien défini. C'est peut-être l'imagination, mais il me sembla distinguer dans la lumière incertaine une forme vague au-devant de lui, une sorte de halo qui éludait son approche et l'attirait en avant à sa poursuite. Je vis sa silhouette qui se détachait fortement sur le ciel au moment où il atteignit la crête d'une petite colline. Puis il disparut et c'est la dernière vision qu'eut jamais aucun œil humain de Ballington Cowles. J'appelai des pêcheurs, nous fîmes tout le tour de l'île avec des lanternes, nous fouillâmes tous les recoins de rochers sans apercevoir une trace de mon pauvre ami. La direction qu'il avait prise menait à une ligne de roc hérissé et qui surplombait la mer. À un certain endroit, il nous sembla reconnaître un éboulement frais et des marques de pieds. Nous nous couchâmes à plat ventre pour regarder par-dessus le bord avec nos lanternes, mais nous ne vîmes que les vagues qui bouillonnaient et hurlaient à 200 pieds au-dessous de nous. Comme nous étions là, couchés, soudain, dominant le bruit des vagues et le hurlement du vent, s'éleva de l'abîme au-dessous un cri sauvage. Les pêcheurs, race naturellement superstitieuse, soutenaient que c'était le rire d'une femme, et j'eus peine à les décider à continuer les recherches. Pour moi, je crois plutôt que c'était le cri de quelque oiseau de mer surpris, à l'improviste par la lumière de nos lanternes. Et maintenant, j'ai achevé la pénible tâche que j'ai entreprise. J'ai raconté aussi simplement et aussi fidèlement que je pus l'histoire de la mort de John Barrington, Cowles, et la suite d'événements qui l'ont précédé. Voici le prosaïque fait divers qui parut 2 jours après dans le Scotsman. Triste accident à l'île de May. L'île de May était le théâtre d'un triste accident. M. John Barrington Cowles, dont on n'a pas oublié les récents succès à l'université, était venu passer quelques jours à May en compagnie de son ami M. Robert Armitage, dans le but de remettre sa santé ébranlée, autant par un excès de travail que par des ennuis de famille. L'avant-dernière nuit, il quitta tout à coup son ami et on n'a plus retrouvé sa trace. Il est presque certain que M. Cowles a trouvé la mort en tombant d'une des hautes falaises qui entourent l'île. L'université perd en lui un de ses plus brillants élèves. Je n'ai rien de plus à ajouter à mon récit. J'ai déchargé mon esprit de tout ce que je savais. Je comprends très bien que nombre de personnes, après avoir pesé ce que j'ai dit, ne voient aucune base pour une accusation. Ils diront que c'est pas une raison parce qu'un homme d'un tempérament naturellement nerveux se suicide après un grand désappointement pour porter une accusation contre une jeune femme. À ceci, je répondrai que je laisse leur opinion. Pour moi, j'attribue la mort de William Prescott, d'Archibald Reeves et de John Barrington Cowles à cette femme, avec autant de confiance que si je l'avais vu leur enfoncer un poignard dans le cœur. Vous me demanderez sans doute sur quelle théorie je me base pour expliquer tous ces faits étranges. Non, de théorie, je n'en ai aucune, ou tout au plus, si j'en ai une, est-elle vague, mal définie. Que Miss Northcote fut douée d'un pouvoir extraordinaire sur l'esprit, et par l'esprit sur le corps des autres, cela j'en suis convaincu. Aussi bien que de l'usage de ce pouvoir pour un but bas et cruel. Qu'elle ait eu quelque terrible secret qui lui était nécessaire de révéler avant son mariage, cela ressort forcément des confidences faites à ses 3 fiancés. Et on peut conclure que ce mystère était d'une nature terrible puisqu'aussitôt révélé, ces hommes qu'il avait si passionnément aimés s'éloignèrent d'elle comme d'un fléau. Ils payèrent de leur vie ce refus de l'épouser. Et les paroles de Reeves et de Cowles prouvent qu'ils étaient prévenus de la vengeance qu'elle se proposait. À part cela, je ne sais rien. J'ai rapporté les faits tels que je les connaissais. Je n'ai jamais revu Miss Northcote, ni ne désire la revoir. Si mon récit peut sauver quelque créature humaine du piège de ses beaux yeux et de cet adorable visage, je reposerai ma plume avec l'assurance que la mort de mon pauvre ami n'a pas été entièrement vaine. Arthur Conan Doyle.